Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
Entre les poteaux.
Christophe Cessieux.
Salut à tous. En cette fin de saison, les fans de rugby du 64, les Pyrénées-Atlantiques, sont dans tous leurs états. Entre Biarritz, qualifié pour les barrages d'accession au top 14, Bayonne, qui a réussi un coup unique en allant battre Toulouse dans son antre, et la section paloise en fâcheuse position et qui n'y arrive toujours pas. On ne sait plus où donner de la tête, ça tombe bien. On fait le point dans un instant entre les poteaux. Alors il y a le championnat et ses incertitudes de fin de saison, mais il y a aussi les Coupes d'Europe, la grande affaire du week-end prochain, des compétitions monopolisée par les clubs français. C'est simple, ils seront trois à viser deux trophées lors des finales à Twickenham. Et dans la plus grande, celle de Champions Cup, seront opposées deux conceptions, la fougue de La Rochelle face à l'expérience du Stade Toulousain. Pour vous aider à choisir votre camp, celui du vainqueur, nous accueillerons tout à l'heure Pierre Vénère, le directeur général des Maritimes, et vous entendrez également le Toulousain Maxime Médard, qui disputera samedi sa troisième finale européenne. L'équipe des poteaux, composée aujourd'hui de Denis Charvet, le seul d'entre nous à avoir disputé des grandes finales, mais jamais de finale européenne. Ça n'existait pas à l'époque préhistorique.
Non, ça n'existait pas malheureusement.
Pendant laquelle tu jouais,
ouais,
non,
ben oui, hein, mais
t'aurais bien aimé ça pour
chacun
toi.
Chacun son époque, malheureusement.
Wilfried Templier lui a plus souvent commenté des finales qu'il n'en a joué. Salut Wilfried.
Salut, non, je fais des finales Charente-Poitou.
Ah, Charente-Poitou
quand même, attention.
Ah ouais,
hein.
Bien sûr, bah tiens, on va ouais. pas les oublier. Pierre
Comme
Amiche a disputé une finale chez les cadets, lui, je crois, avec la sélection de Paris, remportée 78-0. Vous aviez acheté l'arbitre ou quoi?
Non, pas la peine, on s'est contenté de leur péter la gueule.
Et puis le taulier de Lidl, c'est Manu Massicard. Est-ce que tu as quelques finales à ton actif, Manu?
Aucune. Oh, bah celle que j'ai regardée à la télé où je regardais Denis Charvet jouer au rugby.
Ah là là,
c'était il y a longtemps alors.
C'était nos premiers souvenirs. Moi, c'est mes souvenirs de
mes premières
de petits
émotions.
Garçons, ouais, exactement. Ouais. Alors avant de nous intéresser à l'Europe, place tout d'abord au top 14, ce championnat que personne ne veut quitter pour rejoindre l'étage du dessous. Dans les semaines qui viennent, les mêlées risquent d'être féroces. Voilà, un championnat dont on sait depuis longtemps maintenant qu'Agen ne en fera plus partie la saison prochaine, ça s'est acté. En revanche, qu'il est moins, c'est de savoir qui occupera le strapontin peu confortable de Baragy. Ce week-end, on a même assisté à un chassé-croisé pour cette place de 13e. La victoire de Bayonne à Toulouse couplée à la défaite de Pau contre le Racing a inversé les positions. Désormais, c'est la section qui est le nouveau maillon faible. Pau qui, depuis son retour dans l'élite en 2015, Pierrot, végète dans les basses couches du top 14, alors qu'elle a des moyens et de l'ambition, ça semble pas suffire.
Ben oui, c'est simple, Christophe. Cette saison après la montée en top 14, la section paloise demeure une énigme. Avec un budget similaire à celui du Castre Olympique et très légèrement inférieur à celui de La Rochelle, avec des recrues de poids, de renom depuis une dizaine d'années et un sponsor principal, on le rappelle, un total qui pèse 77 milliards de dollars. Et ben la section n'y arrive toujours pas, jamais mieux que 9e depuis son retour dans l'élite. Les Béarnais n'ont pas disputé les phases finales de la première division depuis 18 ans. Et pourtant les noms ronflants ont débarqué en vagues successives, hein, les Blacks, Conrad Smith, Carl Lehmann, Colin Slade, Luke Wacklock ou Tom Taylor, les internationaux reconnus comme Ben Moen, Mike Harris, Jesse Mogg, les Australiens, le Yanchis, le Sudaf, Johan Murray, l'Écossais sans oublier, et bien les Français recrutés parfois avec des salaires conséquents, on pense à Bonneval, Dumoulin, Amadage, Pointu, Bungami, Gunter, Metz, mais malgré ça, les résultats ne suivent pas, la faute à une instabilité chronique, parce que depuis 2015, on a vu 4 managers, seuls ou en duo, et 8 organisations différentes, au total, en comptant les spécialistes, défense, touche mêlée. Pau a vu passer 13 entraîneurs différents en 6 ans, conséquence logique. Eh bien, cette équipe ne semble pas avoir d'identité, tantôt jeune, tantôt expérimenté, tantôt très pro des deux, tantôt plutôt Dream Team. Eh bien, la greffe a du mal à prendre entre les stars et les jeunes du cru, et cette saison, c'est un peu un condensé de tout ça. Victoire sur la pelouse de Lyon, de Montpellier et de Bayonne, 6e meilleure attaque, mais dans le même temps, 3e pire défense et seulement 8 victoires. Les barrages semblent être de plus en plus proches. Pau doit faire mieux que Bayonne, adversaire direct, et le calendrier semble délicat. Déplacement à La Rochelle, pas encore qualifié pour les phases finales. Et réception de Montpellier, 2 matchs ou 3 pour sauver un projet, pour stabiliser un club historique en top 14.
Alors, instabilité, manque d'identité, c'est quoi ? Qu'est-ce qui cloche à Pau, Denis, toi qui connais un peu ce club ?
Bah, je connais, c'est compliqué aussi, on le sait aujourd'hui économiquement, par rapport à la région, c'est compliqué. Je pense que si Total n'était pas là aujourd'hui, ça serait très compliqué.
Oui, hein. Mais Total est là, justement.
Oui,
Total,
mais c'est quand même c'est
une entreprise du CAC 40, c'est pas rien, ils donnent de l'argent.
Tu peux pas construire quelque chose sur la durée avec une entreprise qui peut te lâcher du jour au lendemain, c'est ce que je veux dire, c'est très compliqué. Et la vérité, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent, donc voilà, ils font...
Il n'y a pas assez d'argent à Pau.
Tu exagères, je trouve. S'il y a bien un sponsor qui est fidèle, oui, c'est Total, mais et s'il y a bien un sponsor qui a de l'argent, c'est Total,
oui,
quand même.
D'accord, mais ils n'ont pas le meilleur budget du championnat, Manu.
Mais un budget qui devrait leur permettre quand même d'éviter d'avoir très très peur en fin de saison, Manu, non ?
Je pense pas que le problème des Palois soit un problème d'argent, mon cher Denis. Je suis souvent d'accord avec toi, mais pas là, tu vois. Le problème des Palois, c'est qu'ils ont construit un budget, qu'ils ont construit un recrutement, et ils ont obligé de construire une équipe, ils ont oublié de construire une identité, alors qu'ils ont tout pour réussir, ils
Exactement.
Ont raté l'essentiel.
Ouais.
À l'inverse, tu vois, à l'image de La Rochelle, à l'image de Castres, mm-hmm. Le président palois a oublié de construire son club, il s'est construit une Dream Team, et puis c'est tout, quoi. Et sauf que la Dream Team, comme dans pas mal de clubs, elle a fait pchit, et c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de caractère. D'identité.
Bah, c'est la même chose avec Brive par exemple, qui avec un budget moindre a réussi à trouver une identité et une stabilité. Je l'ai dit, hein, vous vous rendez compte le nombre de coachs, de managers et d'idées différentes qui sont passées dans le club en moins de 6 ans, c'est quasiment impossible
Après,
de construire un projet.
Tu peux changer de staff, regarde ce qui s'est passé à La Rochelle, mais il y a quand même une continuité.
Mais,
même
la conséquence.
Mais c'est un problème de riches que les Palois ils ont. Mmh. Ils ont eu de l'argent, ils ont acheté des joueurs, ils ont acheté des staffs, ça n'a jamais marché, bah on les a changés. Mais t'as oublié de construire ton histoire, t'as oublié de construire ton aventure. Et c'est aujourd'hui pour ça, alors c'est facile aujourd'hui de dire que c'est la faute de Toulouse et des impasses de Toulouse si la section paloise est relégable, mais faut pas déconner quand même. C'est les Palois, il faut qu'ils se regardent dans la glace.
Non, mais là où je te rejoins, c'est un problème de recrutement aussi, essentiellement. Quand on voit ce que le fait La Rochelle, c'est exceptionnel. Donc c'est vrai que je pense que La Rochelle a le même budget que Pau.
Légèrement supérieur. Il y a 1,6 million, voilà, je crois, d'écart.
Mais bon, il y a une vraie intelligence de recrutement, de management, c'est vrai, tu as raison, c'est peut-être qu'un problème de riche.
Les Palois qui étaient presque satisfaits de leur défaite, à 0 points, vendredi soir, bon, évidemment, Bayonne n'avait pas encore réalisé l'exploit face à Toulouse, ils ont laissé échapper un petit point de bonus défensif qui aurait pu faire la différence, qui pourrait faire la différence en fin de saison. C'est quand même étonnant, et aujourd'hui, c'est vrai que ils rejettent la faute, Wilfried, sur le Stade Toulousain et ses impasses. Mais enfin, habituellement, le Stade Toulousain, même en faisant des impasses, il réussissait à battre des équipes du calibre de Bayonne. Hein.
Oui, et ils sont pas pleins, les Palois, quand les Toulousains sont venus il y a quelques mois au Hameau avec une équipe largement remaniée, et pourtant ils ont même pas su les battre. C'est les Toulousains qui avaient gagné. C'est sûr qu'on peut comprendre les supporters quand on voit la composition des Toulousains qui ont préféré préserver leur cadre pour la finale de Coupe d'Europe, mais je pense que la veille, il fallait gagner avant. Avant de dire « Oh, regardez ce que vous avez mis comme équipe ». Vous imaginez que les Palois n'ont pas pu battre le Racing, n'ont pas pu prendre de bonus défensif, et après comment reprocher aux Toulousains leur compo d'équipe? S'ils avaient fait le boulot, ils auraient pu reprocher la compo d'équipe, mais ils ont perdu à 0 point en classement contre le Racing. Donc moi je trouve ça un peu fort quand même, parce que dans l'année, on se plaint pas quand Toulouse se déplace avec une équipe B, parce que les cadres d'équipe de France...
Toulouse n'a pas lâché le match, et Toulouse avait un gros pack, Toulouse n'est pas arrivé contre Bayonne, parce que Bayonne a été plus fort ce jour-là.
Et juste pour revenir à Pau très rapidement, moi ce qui me fait peur pour la fin de saison pour ces Palois, c'est que je suis incapable de vous donner trois leaders. Je suis incapable de vous donner trois joueurs incontournables et très forts qui dominent tous les autres. Vraiment. Qui est le leader de défense, qui est le leader d'attaque, j'en suis incapable. Donc ça, c'est ça qui est un peu effrayant pour Pau, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de patron. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne. Peut-être qu'il y en a en interne, mais sur le terrain, ces patrons ils sont un peu discrets.
Mastoy s'est blessé, hein, le problème. Mastoy avait ce rôle là de leader de jeu.
Si, t'as Domagna, mais encore faut-il qu'il joue. Après, la bonne nouvelle pour les Palois, c'est quand même l'arrivée anticipée de Sébastien Piccheroni, qui lui va poser, qui lui est sans doute l'homme du projet, si on lui laisse le temps, et tout ce qui manque à Pau, on peut se dire que Piccheroni le possède. Ouais. Donc j'aurais tendance à penser qu'il... qu'ils peuvent se sauver.
Et puis il ne faudrait pas descendre en Pro D2 parce que là, la construction prendrait sans doute un peu plus de temps. Bref, il y a de la tension, vous l'avez compris, en cette fin de saison. Et il y a aussi des exploits, notamment celui de l'aviron bayonnais, le voisin départemental qui est allé réaliser l'exploit dans l'antre du stade toulousain. Et ça valait bien un petit frelon.
RMC, entre les poteaux,
lancé comme un frelon.
Victoire incroyable que celle de l'aviron, victoire du cœur et des tripes pour un club que tout le monde destinait au barrage ces dernières semaines. Et cela a, semble-t-il, transcendé le 15 bayonnais qui n'avait plus gagné en terre toulousaine depuis 15 ans. Écoutez l'émotion de Maxime Delonca, le talonneur de l'aviron, un homme plus habitué à l'ombre qu'aux lumières du rugby d'élite.
Ce qui est beau, c'est que... C'est qu'on s'est pas menti. On s'est pas menti cette semaine. On a fait une énorme semaine. On s'est resserré autour de notre groupe. C'était peut-être pas le plus beau match de l'année, mais en tout cas, on s'est envoyé pour les 23 qui étaient sur la feuille, pour tous les copains qui sont restés à la maison, pour tous les dirigeants, pour tous les gens qui travaillent pour ce club, pour nos familles aussi. Et franchement, on est très, 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 très heureux.
Voilà, très heureux, beaucoup d'émotions, ça fait du bien aussi d'entendre, il avait les yeux tout rouges, ça fait du bien aussi d'entendre comme ça les sangras du top 14, les quasi-anonymes qui sont l'âme de notre championnat, Denis, pardon.
Ben oui, effectivement, et puis bon, c'est au courage, donc c'est tout, sur des valeurs qu'on connaît et qui sont indispensables à ce jeu. Après, voilà, on sait que la saison a été longue, dure pour eux et qu'elle n'est pas finie. Hein.
Elle n'est pas finie.
Mais ils ont construit, messieurs, cette victoire. Ils ont construit cette victoire parce qu'on parle évidemment de la compo d'équipe du Stade Toulousain. On va en reparler plus tard en se projetant vers la finale de la Coupe d'Europe. Mais les Bayonnais ont construit cette victoire cette semaine. Ils ont, souvenez-vous, le week-end dernier, ils ont perdu contre l'UBB à domicile. Et Yannick Bru, le manager, disait on se projette sur le barrage. Il faut qu'on pense au barrage. Sauf que les leaders bayonnais cette semaine ont pris des choses en main.
Ça les a fixés, quelque
voir part. Le staff. Ouais, et on demandait des choses au staff, on demandait des changements, des entraînements plus courts, plus intenses pour être plus frais, et ça a plu au staff. Ils ont dit ils ont accepté ça, et derrière il y a eu ce comportement. Ils étaient menés 14-0 sur la pelouse d'Ernest Vallon, hein, et ils l'ont emporté. Yannick Bou disait normalement ce bras de fer à 14-0, je me suis dit tout ça pour ça, il nous a dit, et ce bras de fer normalement on le perdait, et finalement avec le mental, avec le feu qu'ils ont eu en eux, ils ont su créer l'exploit. Et avec la semaine qu'ils ont passée, c'est quand même assez notable.
Denis, je sais que Kylian Mbappé est ton idole. Est-ce que s'il était toulousain, il aurait dit aujourd'hui la défaite, elle est pour nous, ou elle est plutôt construite par l'aviron bayonnais?
Par l'aviron bayonnais. D'ailleurs, Vincent Moscato disait pour mon 50, ça va être le.
Ah oui, mais il a toujours été un visionnaire en matière de rugby.
D'ailleurs, Vincent Pelot lui a bien répondu en conférence de presse. Ah oui. Mais non, c'est la victoire du. C'est la victoire du cœur, j'ai envie de dire. Voilà, sincèrement, j'aurais pas mis un centime sur cette victoire.
Et, oui, mais toi aussi, en matière de parité.
Non, mais sérieusement, je voyais pas Toulouse, alors que Toulouse n'est pas sûr encore d'être dans les deux premiers.
C'est quand même, ils en sont moins sûrs là.
Non, mais voilà, donc c'est quand même une vraie surprise quand même, parce que Toulouse va peut-être finir troisième et aller en barrage, ce qui n'était pas prévu.
Il y a un truc très intéressant à Bayonne, c'est le discours. Alors c'est de la rhétorique, c'est peut-être la méthode Coué, mais ça fait plusieurs semaines qu'ils disent. On va sauver le club. C'est pas on espère, on veut, c'est on va sauver le club. Et c'est un truc qui revient dans la bouche de Yannick Bru, dans celle de Maxime Delonca, parce qu'on n'a pas tout entendu, mais dans la conf, il le répète et il dit on va sauver le club. Et ça, c'est un leitmotiv. C'est intéressant. Je trouve que le switch mental, je préfère être dans la position de Bayonne que de Pau aujourd'hui.
Il y a une âme dans cette équipe de l'aviron. Bayonne qui quitte donc la zone rouge et compte 3 points d'avance sur Pau. Lors des deux prochains matchs, Pau affrontera La Rochelle, puis Montpellier au Hameau. Dans le même temps, Bayonne défiera Montpellier, puis le Stade Français. L'avantage.
Pau, c'est à La Rochelle, on est d'accord.
À La Rochelle. Alors, Montpellier pour les deux équipes, La Rochelle d'un côté, et puis le Stade Français de l'autre. C'est un calendrier à peu près.
Équilibré.
Équilibré, non?
Moi, je pense que le barrage, ça se jouera à la réception de Stade Français, tout simplement. Bayonne, ils ont les cartes en main. Hein. Après, il faut gagner, parce que Stade Français viendra jouer un huitième de finale. S'il bat Lyon, il faut battre Lyon, voilà, d'accord. Mais match compliqué aussi à négocier pour Stade Français. Ouais. Donc, peut-être qu'ils vont se sauver.
Manu, avantage à qui?
Moi, j'en sais rien. J'en sais rien.
Compliqué, hein.
J'en sais rien. Bayonne a 3 points d'avance, mais ça va jouer à rien.
C'est Pau qui est devant.
Ce match à La Rochelle, il coûte très très cher. Et puis les Rochelais, ils ont quand même eux aussi une fin de saison complètement démentielle. Donc ce qui a coûté cher aux Palois cette semaine peut peut-être leur profiter dans d'ici 15 jours. Quoi.
En tout cas, Bayern, ils ont une chance toute petite de jouer deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. Et ça peut être un vrai avantage pour les Basques.
Et pendant ce temps-là, le Biarritz Olympique, l'autre larron du 64, entamera samedi prochain à Guidera sa longue marche vers le top 14 avec son premier match en barrage d'accession face à Grenoble. S'ils l'emportent, ils se déplaceront ensuite à Vannes. Et s'il y a encore un succès, il faudra se coltiner Pau ou Bayonne, un véritable parcours du combattant. Messieurs les poteaux, il est l'heure maintenant de prendre de la hauteur pour l'un des rendez-vous les plus excitants de la saison. Ce sera samedi prochain dans le temple du rugby de Twickenham où deux clubs français vont se disputer la Champions Cup.
Antoine Dupont, l'essai qui va envoyer peut-être Toulouse en finale de Coupe d'Europe. Baptiste Germain qui est rentré, qui donne à Ntamak qui dégage en touche, et le Stade Toulousain est en finale de Coupe d'Europe.
La guerre des étoiles est lancée et j'espère qu'on aura la capacité à mettre la cinquième étoile sur notre trophée, sur notre maillot.
L'essai Rochelet, et c'est terminé, victoire historique, jour historique à La Rochelle. La Rochelle se qualifie pour la finale de Coupe d'Europe.
Ce sera un rendez-vous magnifique. Je pense que les deux équipes ont la même envie, la même détermination. Donc on connaît la qualité de Toulouse aussi, qui monte en puissance depuis plusieurs années. Donc ça risque d'être encore un très très gros match.
Voilà un match passionnant et indécis, une pléiade de stars venues de tous les coins de la planète rugby et des atouts différents dans les deux camps. D'un côté, l'expérience et le savoir-faire du Stade Toulousain, grande Europe. De l'autre, la passion et l'envie débordante de remporter enfin un grand titre pour entrer dans le club des équipes qui comptent. Bref, tout est réuni pour nous livrer un superbe spectacle. Avant d'entendre Maxime Médard et d'accueillir Pierre Vénard, le directeur général du Stade Rochelais, on va d'abord prendre les dernières nouvelles des deux clubs. On va commencer par le challenger, La Rochelle, le club de cœur de Pierre Amiche et de Nicolas Paoulorsi qui nous rejoint. Salut Nico.
Salut les gars, salut à tous.
La Rochelle qui, après avoir mis ses titulaires dans le coton, les a ressortis de la boîte samedi pour une large victoire face à Agen. Succès malheureusement entaché par la grave blessure de Pierre Aiguillon, le centre Rochelais dont la saison Nico est terminée, la carrière Rochelaise également, puisqu'il sera castré la saison prochaine.
Hein. Ouais, 34 ans, les images sont terribles hein, de Pierre Aiguillon qui est rentré à la 60e. 17 minutes après, il est pris dans un ruck, le genou qui tourne, on attend encore le diagnostic, mais bon, ça sent quand même la grosse blessure au niveau du genou. Hormis ce coup dur, parce qu'on sait que Pierre Aiguillon, c'était plus le trois-quarts centre très important sur le terrain, en tout cas il était plus numéro 1 à son poste, mais dans le groupe c'est une personnalité vraiment très importante. Sinon tout le monde est là du côté de La Rochelle, t'en as parlé Christophe, il y a cette super gestion au niveau du staff. On a préservé les cadres face à Montpellier puis face à Brive en envoyant les jeunes, là on les a ressortis contre Agen. Il y a toujours une incertitude concernant Botia, mais il devrait jouer normalement, touché à la cheville en demi-finale face au Leinster. Donc tous les cadres ont joué face à Agen, Antonio, Bourgarit, Priso, Skelton en deuxième ligne, Gourdon Vito, Carbarlo West, ils étaient tous de sortie, Dulin à l'arrière, Dylan Leeds. Franchement, tous les voyants sont au vert côté Rochelais au niveau physique.
Et dans le coin toulousain, puisqu'il a choisi son camp, Wilfried, Templier, qui à l'avenir n'aura plus le droit de prendre un café à l'ombre de la tour de la chaîne sur le port de la Rochelle. C'est comme ça quand on choisit de renier ses couleurs d'origine. Dans le camp toulousain, disais-je, pas de blessé grave, mais une défaite qui fait des ordres aussi. Les cœurs à peut-être des conseils.
Qui fait des ordres, oui, qui peut avoir des conséquences aussi, ou notamment concernant le classement du top 14, Denis le disait, puisque le Stade Toulousain n'a plus qu'un point d'avance sur La Rochelle et 5 sur le Racing, donc ça veut dire qu'il va falloir batailler soit contre Clermont à domicile une semaine après la finale, soit à l'UBB pour être sûr d'être parmi les deux premiers et d'éviter un barrage. Encore que, sachez que Toulouse possède l'avantage du goal average particulier avec La Rochelle et avec le Racing, puisque le Toulousain ont battu ses équipes à la fois à l'aller et au retour dans le top 14, donc ça laisse une marge. On avait choisi de laisser les cadres au repos. Baye, Faumina, Keino, Dupont, Ntamak, Aki, Colby, Lebel, ils n'auront pas joué entre la demi et la finale dans la glace directement. Vous pouvez par contre dissocier la défaite face à Bayonne et la finale. Hein. L'inquiétude, selon moi, pour les Toulousains, elle est plutôt du côté de l'infirmerie, des absents qui s'empilent. Julien Marchand suspendu, Aldeguerri, Placine, Guitoun,
Hugé et peut-être Zach Holmes qui a été touché face à Bayonne samedi, qui n'était pas à l'entraînement ce lundi. La rotation en prend un coup. À l'inverse, si la défaite face à Bayonne a une conséquence, ce sera, attention, de mettre en alerte et motiver les joueurs ici au Stade Toulousain.
Donc du monde quand même, hein, du côté du Stade Toulousain, Denis.
Pas mal du monde, mais surtout Julien Marchand qui est la poutre maîtresse.
Enfin, c'est le gros coup dur à Toulouse.
Et surtout, faut pas minimiser son importance au niveau de la mêlée fermée, et il va y avoir quand même un drôle de combat dans les rucks, mais bon voilà, c'est un joueur qui est hors norme, qui est le capitaine en plus, donc je veux dire c'est terrible pour lui, mais c'est terrible pour le club pour Toulouse.
Alors si le Stade Rochelet disputera là sa première finale de Champions Cup, Toulouse en revanche est un vieil habitué, 7e finale européenne, c'est ça Wilfried, je ne me trompe pas dans les chiffres?
Exact.
7e finale donc pour les Rouges et Noirs, et leur papy ou papa, ça dépend, 3/4, Maxime Médard qui lui n'en a pas 7 mais 3. Hein.
Oui, c'est le papa chez les Toulousains, 34 ans, 35 en novembre, 17e saison en rouge et noir, une fois champion d'Europe en 2010, 4 fois champion de France 2008, 2011, 2012 et 2019. Bah, il a écumé les terrains européens et quand on lui demande son souvenir le plus marquant, écoutez, il pense à 2008, le Millennium Stadium et la Red Army du Munster.
Honnêtement, on est entré dans un stade fermé, tout en rouge. Avec les supporters de Munster, voilà, c'était impressionnant. Donc voilà, ça a été une finale où on n'était pas loin non plus de la gagner. Voilà, c'est la première finale de Coupe d'Europe que j'ai pu jouer et que malheureusement j'ai perdu. Nous avons perdu. Donc pour moi, ça a été quand même quelque chose de fort. Ouais.
Dans ce club où la transmission est très importante, sachez que Maxime Médard, quand il a débuté, il a joué avec Émile Ntamack, qui était sur sa fin de carrière, et que ces dernières saisons, il a vu débarquer Romain Ntamack. Alors, imaginez le lien.
J'ai la chance d'avoir pu jouer avec le papa de Romain, de jouer avec les Romains. Donc, Milou a énormément compté pour moi dans ma carrière. Il m'a surtout remis dans le droit chemin quand il fallait me remettre dans le droit chemin. Et c'est vrai qu'avec Romain, j'ai quelque chose de particulier où j'essaie de lui donner ce que je peux lui donner et de lui transmettre ce que j'ai à transmettre. C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui est déjà posé à son âge et qui est calme. Il a tout d'un grand, donc j'ai pas besoin de plus pousser les choses.
Maxime Médard a sur la table l'option d'une année supplémentaire à activer pour la saison prochaine, c'est pas encore confirmé, mais en tout cas, il restera l'homme d'un seul club, le Stade Toulousain, à qui il fait une déclaration d'amour. Écoutez.
C'est un club particulier, des joueurs commencent leur carrière et peuvent y finir, peuvent mettre leurs enfants et voir des pères et des enfants jouer dans le même club et aimer le club comme eux. Personne d'autre. J'ai eu la chance qu'on me remette ce maillot de 350 matchs lors de la demi-finale. C'est toujours particulier, ça m'a touché parce que je ne me voyais pas autant porter ce maillot. Et ce qui m'a fait plaisir en regardant mon équipe pendant le discours, il y a beaucoup de joueurs qui vont faire comme moi en fait, qui vont sûrement rester dans ce club souvent et longtemps. Donc c'est ça qui est beau dans ce club.
Plus de 350 matchs en rouge et noir, quoi qu'on en dise, un exemple pour ses coéquipiers ou les jeunes Toulousains qui vont quand même devoir s'accrocher pour avoir la même longévité que lui. Maxime Médard, ce sera l'atout expérience de Toulouse samedi.
Voilà, Maxime Médard, symbole de la culture de ce Stade Toulousain, la filiation, tu es aussi un produit de ce club.
C'est un club à part, hein, c'est un club hors norme. Qu'adore Manu d'ailleurs.
Ah, qui se transmettent les choses, Denis, entre eux. Oui, tu l'as transmis certainement à d'autres. Oui, et...
C'est assez un club qui marque l'histoire depuis 30 ans, 40 ans, mais voilà, qui reste dans ces valeurs-là, et c'est tant mieux.
Alors pour La Rochelle, en revanche, c'est une première, et sans doute le match le plus important de la longue histoire du Stade Rochelet, qui a là l'occasion d'étraîner enfin son palmarès au plus haut niveau. Palmarès vierge, mis à part deux coupes de la Ligue. Moi, je me souvenais même plus
c'est pas vierge.
De cette compétition éphémère. Oui, mais bon, elle n'existe plus. Pour parler du Stade Rochelet, justement, on accueille son directeur général, qui faisait partie justement de l'effectif Rochelet, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2003. Pierre Vénère est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Bon, sans vouloir vous faire offense, cette Champions Cup, elle a quand même plus de gueule que votre Coupe de la Ligue en 2003, non?
Ouais, mais chaque trophée a de la saveur. Je crois que Wilfried, à cette époque-là, était encore du côté Rocher. On avait lancé sa carrière de journaliste comme rédacteur en chef du journal de match de Stade Rocher. Il l'a oublié, mais bon, tant pis. Non, c'est sûr qu'on aborde un événement d'une grande ampleur et forcément il y a une émotion particulière. Une émotion parce que on le partage aussi ce moment avec des gens qui ont connu l'aventure depuis la Pro D2. Je pense à Sébastien Bouboule, à Romain Carmignani, à Robert Mort, et évidemment à notre président Vincent Merlin qui est président depuis 30 ans. Donc on a vécu tout ce chemin tous ensemble. Donc il y a de l'émotion, mais il y a aussi, je dirais que ça me rassure, de la sérénité. C'est un peu nouveau. Quand on a joué notre demi-finale contre Toulon à Marseille, il y avait de l'effervescence. On n'avait pas forcément l'impression d'être à notre place, même si on avait fini la saison en première position. On souffrait un peu du syndrome de l'imposteur. Mais là, l'apport de mecs comme Jono Gibbs, comme Ronan O'Gara, comme des grands joueurs comme Willis Kelton, comme Victor Vito et plein d'autres, fait que on a l'impression de mériter cette place en finale et qu'on y va pour la jouer et pour gagner, évidemment.
J'imagine. Alors, que c'est beaucoup
une question ouais. De l'ennemi quand même, hein, non, Denis Charvet, qui a une question à vous poser, Pierre.
Quel enfoiré. Non, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de fierté, vous le méritez, mais après, il vient d'où le déclic ? C'est quoi le déclic qu'il y a ces dernières années pour passer dans cette cour des grands, justement, où là, on passe d'outsider à favori, ou presque, donc c'est...
Puis pour moi, c'est l'inverse d'un déclic, c'est un travail dans la durée, saison après saison, où il y a eu beaucoup de stabilité. Depuis 20 ans que je suis au club, il n'y a eu que 4 entraîneurs en chef, Jean-Pierre Elissal, Serge Mias, Patrice Collazo et maintenant Tono et Ronan. Donc, c'est un club qui a construit les choses petit à petit et au bout d'un moment, forcément, ça bascule du bon côté. Voilà, tout ça, c'est aussi l'amalgame d'une énergie collective qui entoure le club, qui est formidable, avec nos 13 000 abonnés, nos 600 partenaires. Voilà, il y a un territoire qui vit le rugby, qui n'est pas encore connu du grand public, qui n'est pas encore connu du monde du rugby, mais qui va apprendre à se faire connaître.
Nicolas Paul Orsi, Bordelais devenu Rochelet, une question. Pierre,
ce qui transpire quand on suit le Stade Rochelet depuis plusieurs années, c'est que cette année, vraiment, vous utilisez le terme gagner. On veut gagner. Et ça, c'est nouveau quand même au Stade Rochelet.
Ouais, ça, très honnêtement, c'est l'apport de mecs, notamment comme Ronan, qui ont un peu déplafonné nos ambitions, déplafonné nos rêves. Des coupes et des trophées, ils en ont gagné. Journaux aussi beaucoup avec le Leinster et puis avec Clermont. Et donc pour eux, gagner, c'est normal. Et donc voilà, ils nous autorisent à maintenant à regarder ces événements comme quelque chose de normal pour nous. C'est vrai que c'est difficile quand on a connu une montée en puissance progressive de s'autoriser à rêver d'être champion d'Europe. On regardait les matchs à la télé il y a encore pas très longtemps avec beaucoup d'admiration pour le Stade Toulousain notamment, et maintenant on y est. Et c'est vrai que des leaders et des grands entraîneurs comme Ronan, comme Jono et des grands joueurs nous permettent de dédramatiser ça et finalement dire que c'est normal d'être là.
La Rochelle qui s'appuie également sur ses supporters, un public formidable, même si depuis un an ils ne sont plus visibles, hein, puisqu'ils n'ont pas le droit d'aller à De Flandre. Et ça risque quand même d'être compliqué de faire respecter les mesures sanitaires si les Maritimes reviennent avec le trophée européen dimanche, hein, Pierre.
Ouais, c'est sûr que c'est une énorme frustration de ne pas pouvoir partager ça avec notre public. C'est ce qui a marqué fortement notre identité, notre développement, ce lien très fort avec ses supporters, ces matchs enchaînés à guichets fermés. On est très triste de vivre ça loin d'eux et j'espère que dès que les conditions sanitaires le permettront, on pourra faire une très grande fête, rien que pour se retrouver. Alors si en plus c'est l'occasion de fêter un titre, ce sera quelque chose d'inoubliable.
Alors Toulouse a des stars à quasiment tous les postes, vous n'êtes pas vraiment en reste, hein, Skelton, Vito, Kerr, Barlow et les autres, il y a du très beau monde à La Rochelle. Comment vous avez réussi à les convaincre à l'époque où La Rochelle n'était pas encore finaliste européen? Vous leur vendez quoi? L'Atlantique, l'île de Ré, l'île d'Oléron, les huîtres, c'est quoi votre recette, Pierre Vénère?
Mais il y a un petit peu plus que les plages et les huîtres Gilardot. Il y a aussi un projet costaud, il y a un public, on l'a dit, il y a un beau stade, il y a un centre d'entraînement qui n'a rien à envier au meilleur centre d'entraînement européen. Il y a un staff très compétitif, il y avait déjà une équipe solide. Donc effectivement, de convaincre des mecs comme Willis Kelton, c'est ce qui nous fait franchir un pas aujourd'hui. Mais c'est pareil, c'est le fruit d'une progression. Mais je pense que le premier qui nous a rejoint et qui a lancé un peu cette marche en avant, ça a été Jason Heaton il y a quelques années. Et ça a continué saison après saison. Jason a fait la pub du club à Victor Vito, Victor Vito à Carbarlo. Et puis voilà, le bouche à oreille fonctionne aussi entre les joueurs. Ils savent qu'on vit bien, qu'on travaille bien, qu'on s'entraîne bien et qu'on est bien au Stade Rochelet. Ils font notre pub aussi. Quoi.
Manu Massicard, le patron de Midal, une petite question pour Pierre Vénère. Pierre Vénère
Oui. Non, d'abord plein de félicitations parce que la construction de ce club, c'est un modèle qui compte aujourd'hui dans le rugby français. On parlait tout à l'heure des difficultés de certains clubs sans donner de leçons à personne. Il y a tout dans l'histoire de La Rochelle qui montre ce qu'il faut faire pour réussir. Il y a une identité, il y a un territoire, il y a un soutien populaire, il y a des moyens financiers parce que on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et Pierre ne l'a pas dit, mais pour faire venir Skelton, il faut pas que des huîtres, il faut aussi sans doute un petit peu d'argent. Et j'ai envie simplement de te demander, Pierre, comment tu abordes ce match? Est-ce qu'il y a de la crainte parce que ça peut être un moment de bascule? C'est un formidable élan ici en cas de victoire. Et si malheureusement il y a échec, finalement, qui ne serait pas infamant, est-ce que tu n'as pas peur que ça vienne alourdir une fin de saison qui s'annonce géniale pour autant?
Non, nous on considère que les résultats, ça valide le travail, la performance, le progrès. Et s'il nous manquait encore quelque chose, on ferait tout pour y revenir très vite et gagner. On a déjà vécu deux demi-finales de Top 14, une finale de Challenge Cup. Donc on a commencé à se frotter à des échéances de matchs à coup près comme ça. Non, on y va vraiment sans aucune mauvaise pression et on n'y va pas non plus pour faire un tour de piste. Et voilà, on sait que pour être crédible dans le monde du rugby, il faut gagner. Et on y va avec l'envie de gagner, mais rien de plus. Quoi.
En tous les cas, si vous gagnez, nous, on est prêts à venir faire un Oscar et à faire la fête avec vous. Tous les copains des RMC.
S'ils perdent, t'y vas pas, non.
Si. Bah, alors, quand tu veux, tiens, pour manger des huîtres, quand tu veux. Bah,
ouais.
Merci. Prends Wilfried dans la voiture.
Wilfried, je sais pas si on la mènera à La Rochelle. Il a plus le droit d'y aller.
Wilfried, il est banni.
Je voudrais te faire des fleurs, Pierre, parce qu'on s'interrogeait sur la section paloise et les problèmes de la section paloise en début d'émission. C'est dur, on donne de leçons à personne, mais si la section paloise et certains clubs avaient plus de Pierre Vénère, des hommes de l'ombre dont on parle pas beaucoup, qui ont du bulbe et de l'expérience et qui connaissent l'identité du club, ça irait certainement mieux. Et je voulais te féliciter, Pierre, parce que t'es presque meilleur DG. Attends, t'es presque meilleur DG que premier centre à l'époque. Et surtout le travail, parce que tu as fait beaucoup de travail à La Rochelle au niveau du public, au niveau des partenaires, des choses comme ça. Et la réussite, on parle pas souvent de toi, Pierre Vénère. C'est vrai que le président Merlin gagne une longévité extraordinaire, il y a des hommes dans le staff, mais dans des clubs il faut aussi des rouages. Il y en a aussi ici à Toulouse où je suis, des hommes comme Lacroix, comme Casalbou, qui sont très importants. Mais voilà, on parle pas souvent de Pierre Vénère, mais il est très important à La Rochelle.
Bon, ça va, il s'est rattrapé, Wilfried, Pierre, ou
ça suffira pas, c'est bon. On est très très chaud, très rendu. Mais j'apprécie, oui, le pour autant.
Merci beaucoup, Pierre Vénère. Bonne finale.
Bon match, Pierre.
On espère que quelques supporters rochelais seront présents à Twickenham. Pour cela, il fallait s'installer à Londres depuis quelques jours. On verra si ça a été le cas. Bon, on a à peu près toutes les cartes en main pour se faire notre opinion. Il nous reste tout de même à entendre Wilfried et Nico, qui ont 40 secondes chacun pour tenter de nous convaincre que c'est leur club qui va s'imposer. Le tirage au sort a désigné Nicolas Paul-Orsi pour débuter. Nico, c'est à toi.
Alors Skelton. Non, mais bien sûr, on parle beaucoup de l'effectif toulousain, mais je crois que La Rochelle a construit quelque chose. Il y a un mix parfait en des joueurs, entre de grands joueurs et des joueurs formés au club qui ont tout connu, Antonio, Gourdon, Romain Sazi, des joueurs d'expérience qui pour eux aussi ce sera probablement la dernière saison vraiment pour gagner quelque chose. Et puis c'est une machine de guerre devant le Stade Rochelais, hein, avec ce fameux Skelton, avec une troisième ligne de feu. Donc franchement, sur le papier, avec un Boccia qui va revenir et un effectif qui sera quasiment au complet, franchement, La Rochelle a toutes ses chances.
Très bien, Wilfried Templier maintenant va nous convaincre que c'est le Stade Toulousain. Ça doit lui faire un peu mal quand même, mais voilà, c'est comme ça. Wilfried, c'est à toi.
C'est un grand plaisir que tu m'offres, mon cher Christophe. Toulouse peut s'imposer samedi parce que ce challenge est doublement fait pour ce club. Je vous explique, le Stade Toulousain a toujours eu un temps d'avance sur les autres, et ça commence par le palmarès. Quand vous avez 20 boucliers de Brennus et 4 Coupes d'Europe de l'avance, vous en avez. Mais c'est pas le genre de la maison de s'endormir. Et Guinoves était d'ailleurs un maître en la matière pour tenir tout le monde éveillé. Ça se transmet et ça n'a pas changé depuis son départ. L'Europe, Toulouse connaît. Le président Didier Lacroix, le responsable du haut niveau Jérôme Casalbou, le manager Hugo Mola étaient de l'équipe qui a remporté la première édition. Ce club est un glouton de titres. Mais là, en plus, il a la possibilité de devenir le premier à obtenir 5 trophées, 5 étoiles sur le maillot. Et c'est une grande source de motivation ici. Je disais double challenge, car d'un autre côté, ça fait 3 ans que cette génération court après ça. 2 défaites en demi, c'est de trop pour à la fois les Dupont, Ntamack, Baye, Lebel ou Colby, des assoiffés de titres, mais aussi pour les plus anciens comme Médard, Faumouina ou Tekori évidemment, mais surtout pour un homme qui avait tout gagné et qui est venu à Toulouse pour remporter la Coupe d'Europe, j'ai nommé Jérôme Keino. Et quand un double champion du monde All Black aux 81 sélections et au physique de fer veut quelque chose, il a quelques recettes du succès à disposition, ou au pire,
Victor Vito aussi est double champion du monde, Wilfried, et lui aussi veut être champion d'Europe.
Ah, mais
c'était les 40 minutes de Wilfried Templier.
Ce matin dans Midi Olympique, il y avait un très bon portrait parallèle de Keino et Vito. Ouais. Et c'est vrai, Manu, que bon, Keino, c'est quand même l'échelle au-dessus, hein, l'étage au-dessus.
Keino a toujours été le titulaire de...
Ouais, bien sûr.
Ouais, ça c'est sûr, c'est certain. Mais Keino a quelque chose en plus, c'est qu'il arrête sa carrière, c'est son dernier défi. Ouais. Et il est venu, ouais, comme ça me fait penser
au... C'est la seule chose qu'il a pas gagné.
Ouais, c'est
après, comme tu gagnes pas avec ces ressorts-là. Après,
si. C'est son défi, c'est... Les sudistes, ils viennent en Europe pour gagner la Coupe d'Europe, pas pour gagner le top 14.
Très bien, rapidement, vos pronostics, Toulouse ou La Rochelle, Denis?
Allez, Toulouse avec le cœur.
Toulouse avec le cœur. Manu, Toulouse ou La Rochelle?
La Rochelle.
La Rochelle pour Manu. Nico?
Bah, La Rochelle, je suis obligé, La Rochelle.
Pierre?
Match nul à la mi-temps. Non, La Rochelle.
Wilfried? Wilfried, c'est affreux. C'est affreux.
Lance-toi, Wilfried, allez.
Il passe sous un tunnel.
Mais comment vous voulez pronostiquer un match comme ça qui va jouer à rien? C'est impossible.
Quel est ton cœur? C'est le pronostic du cœur. Vas-y, lance-toi un peu.
Marchand absent, moi je dis La Rochelle.
Je pense que les absents peuvent.
Marchand va faire beaucoup de tours à Toulouse. Malheureusement, ils n'ont pas perdu encore, mais ça va être compliqué.
Très bien.
Et tout ce que vous disiez va être retenu contre vous ensuite par les supporters.
Surtout contre toi d'ailleurs. Messieurs, rendez-vous samedi 17h45 pour cette grande finale que nous suivrons en intégralité sur RMC avec Wilfried et Denis, sans oublier la finale du challenge la veille entre Leicester et Montpellier. Coup d'envoi 21h vendredi soir. Bonne semaine et à lundi prochain, on va se régaler ce week-end.